about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Anaëlle Pigeat-Salibon et Florian Guettet pour parler ensemble de jeunes artistes en Europe, les métamorphoses. À voir à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Quand faire, c'est dire. Angelica Mesiti, c'est au Palais de Tokyo. La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, c'est au Grand Palais. Un coup de cœur de Florian Guettet pour un livre, celui d'Anne Cressels, Le geste emprunté aux éditions du Félin. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition de jeunes artistes en Europe et métamorphoses proposée jusqu'au 16 juin à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. L'axe de l'exposition semble assez clairement exprimé dans la première partie de son titre. Il y a donc 21 artistes issus de 16 pays, artistes nés entre 1980 et 1994. C'est l'inverse, c'est 16 artistes, 21 pays, ça les bonnes ?
Absolument.
Voilà, je fais de la dyslexie même quand j'écris mes lancements. Heureusement, vous êtes là pour me corriger toujours. Donc, est-ce qu'ils sont bien nés entre 80 et 94? Je vérifie auprès de Sally.
Absolument.
Vous avez vu leurs papiers? Vous avez vérifié les passeports?
J'ai tout vérifié.
Bon, très bien. Deuxième partie du titre, les métamorphoses. Alors là, peut-être ça se complique un peu. Alors, on lit l'explication des commissaires, en l'occurrence Thomas Delamarre, assisté de Sidney Gérard, commissaire associé Léane Sacramone, assistée de Sonia Di Gian Antonio. Donc, les commissaires nous expliquent que les esthétiques des artistes choisis sont souvent fragmentées, dévoilent un intérêt pour l'hybridation, le collage et l'archéologie. Bon, ils ne disent pas que ça, mais disons que c'est un point de départ. On va interroger cette idée, peut-être. Mais d'abord, maintenant, un premier tour de table, une phrase, quelques mots exprimant votre ressenti sur cette exposition, Anaëlle Pigeat.
Oh, un grand vent d'énergie.
Florian Guettet.
Une impression de face à n'importe quel salon de jeune création.
Bon, salut bonne.
Disparate et inégale.
Pas mal. Enfin, pas mal comme idée de ce que vous allez développer. Dans les minutes qui vont suivre, pour donner plus d'informations, vous demandez à Anaëlle Pigeat comment est accrochée cette exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses ». Comment les commissaires se sont emparés de cet espace qui n'est jamais très simple, hein, celui de la Fondation Cartier pour l'art contemporain.
Non, absolument, mais cette fois-ci, les œuvres dialoguent assez bien, je trouve, avec l'exposition qui est assez réussie dans son accrochage. C'est d'ailleurs un des artistes de l'exposition qui a pensé la scénographie. En fait, chaque artiste dispose d'un espace. On n'a pas non plus l'impression d'une succession de petites cellules monographiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même des dialogues entre les œuvres qui passent d'un artiste à l'autre, d'un travail à l'autre, et puis même d'un étage à l'autre, il y a quelques artistes que l'on retrouve au rez-de-chaussée et au premier étage, enfin au sous-sol.
Le rez-de-chaussée, pour rappel, hein, voilà. Ceux qui ne le connaissent pas, ce grand bâtiment vitré où c'est jamais très simple de montrer des œuvres, tout dépend de la nature de ces œuvres.
Exactement, parce que ça donne sur le jardin,
étant, voilà, pour le coup, une cave,
une sorte de white
sans fenêtre.
Voilà. Et en fait, alors il y a du point de vue du contenu de ces œuvres, non pas vraiment des chapitres à l'exposition, mais quand même un peu des zones, c'est-à-dire qu'il y a deux espaces au rez-de-chaussée qui sont plutôt consacrés à l'architecture et à l'espace public. Il y a un espace au sous-sol qui est plutôt consacré à la figure, disons, avec une dimension un peu plus intime. Et ça se termine par une sorte de conclusion sur les croyances, disons, et le rapport à l'animalité. Ça s'organise un peu comme ça. Et puis, à travers ces trois espaces, il y a des thèmes qui émergent. Et là, des fils qu'on peut tirer. Vous en avez évoqué quelques-uns. La question de l'archéologie, le rapport à l'histoire, la question de l'hybridation, du collage, de l'identité, du recyclage, tout thème qui sont tout à fait dans l'air du temps, mais qu'il est intéressant de voir apparaître à travers ces travaux.
Alors, autre dimension, évidemment portée par le titre « Jeunes artistes en Europe », Florian Guettet, qu'est-ce que vous avez pensé de cette... on ne peut pas appeler ça thématique, quel serait le mot juste ? l'axe de cette exposition. Est-ce que c'est un axe d'ailleurs?
En tout cas, c'est pas un sujet de fond. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi d'organiser en fait une séquence événementielle, puisque c'est la première exposition d'une série qui sera consacrée à la jeune création à travers le monde, donc qui procédera par région géographique. On trouve effectivement une sélection assez équilibrée entre les Balkans, la Scandinavie, l'Europe de l'Est, de l'Ouest, et même une réfugiée syrienne, parce que effectivement les réfugiés font aujourd'hui partie de l'Europe. Mais d'une façon générale, je me méfie de cette tendance de l'art contemporain à créer ou à constituer des scènes dans un contexte d'art globalisé, parce que évidemment globalisé ça veut dire déjà occidentalisé, avec des nationalités qui sont pour le moins interchangeables. C'est-à-dire que on m'aurait présenté tel artiste en tant que polonais, espagnol ou français, ça aurait pas fait une grande différence, même si je pense pas que ce soit un des enjeux de l'exposition de mettre en valeur ces particularismes nationaux. Mais force est de constater que ça ne crée pas non plus une sorte d'identité européenne. Il n'y a pas vraiment de thématique ou de style qui soit proprement européen. Anaël a énoncé ou énuméré quelques-uns des thèmes qui sont abordés, qui sont finalement des thèmes assez communs à l'art contemporain en général. Et je trouve que ce choix géographique finalement se fait au détriment d'une vraie position curatoriale, parce que ironiquement, puisque ça commence par l'Europe, c'est une exposition qui met en question finalement cette devise européenne, comment être unis dans la diversité. Et là, on a d'une part un thème qui est assez fourre-tout, les métamorphoses. Je compte même plus le nombre d'expositions qui ont pris la métamorphose pour titre. Et puis d'autre part, on répond à cette diversité de la jeune création par la diversité plastique, c'est-à-dire par ce jeu d'assemblage, de fragments, de prolifération, d'accumulation. Alors peut-être que l'art, c'est ça, une pratique qui consiste à unir ce qui est ailleurs que dans l'art et disparate.
Alors peut-être, je soumets cette suggestion à Sally Bonne pour la faire intervenir une première fois, peut-être qu'il faudra attendre la fin de ce cycle, une fois qu'on aura eu jeunes artistes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, enfin je ne sais pas quelles seront les géographies choisies par les différents commissaires, peut-être qu'on la pertinence se révélera. Est-ce que vous avez plutôt pour l'instant le même sentiment que Florian Guettet, Sally Bonne, sur la non-pertinence peut-être de ce choix géographique?
Pas tant sur le choix géographique que sur la disparité générale des propositions artistiques, et notamment sur cette espèce d'idée que de toute façon on serait rentré dans une esthétique fragmentée de l'hybridation et du collage, qui au fond se donne comme une nouveauté et qui n'a finalement absolument rien de nouveau. Et on a un peu cette impression-là en rentrant dans l'exposition, qui est très foisonnante et qui est très inégale aussi, parce qu'il y a des œuvres extrêmement intéressantes, très riches, très réjouissantes aussi, et d'autres qui sont parfois d'un kitsch un peu étonnant. On pourra peut-être y revenir.
Bien sûr.
Mais il me semble qu'il y a quelque chose de singulier peut-être, c'est dans cette volonté de ramener ce rapport à l'histoire comme un outil, où l'histoire elle-même serait devenue un outil, avec ce croisement qu'on retrouve à peu près dans toutes les œuvres, des technologies, des traditions archaïques. Il me semble que dès l'entrée de l'exposition sur la partie gauche, c'est-à-dire qu'on rentre dans la partie gauche du rez-de-chaussée, dans ce grand espace où il n'y a pas de cimaise d'ailleurs, donc on est vraiment en relation avec l'extérieur. Et il y a une œuvre d'une artiste qui se donne comme nom Tenant of Culture, c'est-à-dire locataire de la culture, et c'est une artiste hollandaise. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est assez symptomatique. En fait, elle se propose comme une post-productrice. Et donc, il y a un rapport avec l'idée qu'aujourd'hui, on serait plus dans un certain type de rapport au geste créateur, inventif par exemple, mais au contraire dans une sorte de recyclage permanent, où on n'aurait plus justement qu'à recycler sans cesse et indéfiniment les matériaux de l'histoire et de la culture. Ce qui donne au fond, et notamment dans cette première salle du rez-de-chaussée, un sentiment un peu apocalyptique, de fin du monde. Il y a des cabanes un peu en ruine, des assemblages avec une multiplicité de matériaux, des objets récupérés, des objets fabriqués, et tout ça dans une espèce d'ambiance un peu... un peu crépusculaire presque, en tout cas, même malgré des choses un peu réjouissantes et très colorées, notamment au sous-sol, il y a quand même cette espèce de lourdeur que finalement, on ne sait plus si on va pouvoir encore fabriquer du nouveau, au contraire, on va devoir recycler sans cesse.
Alors il y a peut-être, il y a plusieurs choses à dire sur une exposition de cette nature, mais il y a évidemment le prisme des commissaires de l'exposition, qui sont sans doute, et c'est bien naturel, plus sensibles à certains types de propositions, ou en tout cas plus sensible à certains sujet presque que et que il y a l'autre envie qui est l'envie de faire un panorama puisqu'on dit jeunes artistes en Europe, donc on va vous montrer un peu tous les médiums utilisés, toutes les façons de faire aujourd'hui, mais ce sont deux, me semble-t-il, envies ou désirs louables dans les deux cas, un peu contradictoires. Anaël Pijard.
Oui, mais disons que cette exposition, moi je l'ai prise un peu comme toute une série d'autres expositions qui sont un peu des marqueurs tous les 5 ou 10 ans et qui font une sorte d'état de la jeune création dans une proximité géographique plus ou moins précise et plus ou moins détaillée. On peut prendre par exemple de manière rétrospective Coworkers au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris qui était plutôt sur post-internet. Voilà. On peut penser à Dynasty en 2009 qui était au Palais de Tokyo et au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris ou à la Fondation Cartier justement en 2005. J'en rêve, et en fait, qui était aussi une exposition de jeunes artistes, en gros, et qui, dans mon idée, servent à faire émerger des personnalités et qui associent d'intéressant qu'on découvre des figures. Et en fait, moi, l'intérêt que j'ai trouvé dans cette exposition, c'est ça, c'est de voir des individualités, moins qu'une étude vraiment sur ce que c'est que la création européenne ou qu'un thème sur les métamorphoses. Finalement, tous ces thèmes sont toujours un peu, embrassent beaucoup de choses, quoi.
Mais quand vous dites marqueur, Anaël Pijard, on pourrait penser que ces expositions que vous venez de citer, seraient donc d'une façon objective témoins de la création de leur temps de jeunes gens, ce qui est évidemment à l'heure.
Oui, forcément à l'heure, évidemment, puisque ces expositions sont construites par leur commissaire, qu'en général, alors là, il y a beaucoup de voyages qui ont été effectués par Thomas Delamare et toute l'équipe de la Fondation Cartier. Parfois, sous la forme d'appels à projets, les commissaires reçoivent des dossiers, mais c'est forcément le fruit de leur choix, et donc il y a forcément une part de subjectivité et nécessairement ben non, c'est forcément pas un état objectif de la création, même si on suppose qu'ils s'efforcent, ces commissaires, de choisir un panel d'artistes qui expriment une sorte de diversité. Et d'ailleurs là, on voit la diversité des médiums, on voit la diversité des sujets avec un certain nombre de choses qui émergent, comme je disais tout à l'heure, aussi dans les médiums, par exemple la présence de la peinture que j'ai trouvé intéressante.
Pas d'accord, Florian Gaeté ?
Ah si, la peinture est très présente.
Oui, non. Et puis, intéressante, c'était sur le intéressante que j'ai vu votre œil tiquer.
Oui, après moi je suis pas un grand spécialiste de peinture, je trouvais que la peinture était très, très figurative. Après il y a une peinture en particulier qui m'a vraiment touché, c'est Myriam Haddad, qui voilà, une sorte de peinture au seuil de la figuration et l'abstraction, avec beaucoup de matière, avec des sortes d'explosions, une déliquescence comme ça de la figure qui rappelle évidemment les représentables des traumas qu'elle a pu sans doute vivre en Syrie. Donc j'ai trouvé cette peinture puissante, même sur des petits formats, puisqu'elle se déploie à la fois sur des grands, sur des petits formats. Mais il y a quand même une prédominance quand même de la peinture, de la vidéo, de la sculpture. Il y a du design. Le design est bien raccroché aux arts plastiques. Bon, ouais, moi, j'ai pas vu de performance. C'est toujours pour moi un petit regret, parce que je trouve que c'est une forme qui aujourd'hui est bien représentée dans les arts plastiques et parmi les plasticiens. Bon, ben là, il n'en est pas question.
Il y a pas une œuvre aussi. C'est pas de la performance, mais il y a une œuvre qui fait intervenir la scène, que j'ai trouvée d'ailleurs tout à fait intéressante, qui est Klára Osnadlová, qui mélange, parce que la peinture a toujours, justement, enfin, a souvent, c'est pas le cas de Myriam Haddad, dont je trouve aussi le travail remarquable, mais a souvent dans cette exposition un rapport à l'espace et un rapport à la scénographie, à l'installation. Et dans le cas, si j'ai bien compris, de Klára Osnadlová, elle utilise des costumes de théâtre et une sorte de scène de théâtre dans laquelle elle glisse ses peintures. D'une façon assez intéressante. Mais c'est vrai que la performance en tant que telle est peu présente.
Il faut quand même rappeler qu'il y a toujours les soirées nomades qui existent depuis que la Fondation Cartier existe et qu'il y a évidemment toute une série de soirées nomades qui sont en écho à cette exposition où, pour le coup, la performance, disons, sous toutes ses formes, sera représentée.
Il faut toujours la sortir de l'exposition pour qu'elle
Ne vienne pas la sortir, c'est-à-dire que quand on ouvre une exposition, je ne sais pas combien de temps elle dure, comment on montre la performance. Si c'est juste avoir des captations vidéo, c'est une chose, mais bon, vous avez...
Ah non, mais il y a plein de... Aujourd'hui, il y a plein de... Puis on va le voir notamment avec Messiti, il y a plein de vidéos performances aujourd'hui qui sont possibles, qui sortent de la narration, qui sont vraiment dans l'action plutôt que dans la théâtralité. Donc si, il y a quand même aujourd'hui plein de manières de repenser la performance. Mais bon, enfin, c'est pas grave, c'était juste pour dire que c'était pas exhaustif non plus du point de vue des médiums.
Est-ce qu'il y a des surreprésentations et sous-représentations pour vous, Sally Bonne, dans cette exposition Jeunes artistes en Europe?
Je suis pas sûre. Enfin, j'ai pas eu cette impression-là, en tout cas, de surreprésentation ou sous-représentation. Je me suis quand même posé la question, et c'est ce qu'évoquait Anaëlle à l'instant, de savoir la question du choix des artistes. C'est-à-dire, on a quand même envie de savoir sur quels critères, en fait, le choix s'est porté, puisqu'il y avait effectivement des voyages, plus de 1000 artistes présélectionnés, puis 200 artistes sélectionnés, et puis finalement 16. Et indéniablement, évidemment, il y a aussi une volonté de rendre compte de quelque chose, cette disparité que j'évoquais tout à l'heure, elle est aussi sur ces espèces de zones qui ont été aussi évoquées, c'est-à-dire le rapport à l'espace, à l'assemblage, à la sculpture, qui est plutôt très monumental, qui est avec une installation de Marion Verbaum avec des immenses colonnes comme ça qui sont des assemblages de sculptures les unes sur les autres ou des objets une immense cabane qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. On a aussi de l'autre côté de la peinture qui est d'ailleurs assez intéressante. Il y a deux artistes, un artiste anglais et un artiste
Charlie Billingham.
Voilà, Charlie Billingham et un artiste grec, Alexandros Vasmoulakis, qui tous les deux font des installations en fait picturales gigantesques, donc qui reprennent aussi l'espace urbain, l'espace du mur, l'espace de l'architecture, mais qui jouent, et notamment Charlie Billingham, là, et ça reprend cette question de l'histoire et comment on vient puiser en fait dans l'histoire, qui emprunte au dessin, à la période de la Régence, on voit un petit peu de Daumier aussi. Donc c'est des choses qui sont assez singulières et assez intéressantes, mais qui ne font pas ensemble, effectivement.
Annelle Pisa.
Non, j'allais relever aussi ce rapport à cette présence de l'histoire, par exemple chez Marion Verbaum, une dimension médiévale, une inspiration médiévale, présente aussi chez Casper Bosman, vous parliez de Charlie Billingham, de Kostas Lambridis aussi dans son rapport au design et aux arts décoratifs. Ça ne fait pas un ensemble, effectivement, ça ne fait pas ensemble, mais ce sont des tendances que l'on peut relever, et je trouve que ça fait partie des enjeux intéressants que de s'interroger sur ce que sont les grandes tendances de la création aujourd'hui.
Pour le plaisir, quand même, un extrait d'une vidéo de Gabriel Abrantes dont on n'a pas encore parlé, c'est Princess X, dont on va entendre la VF.
Bonjour à tous, je suis Laetitia Doche, la voix off de ce film, qui va vous raconter l'histoire incroyable de cette sculpture là-bas, Princess X. Voilà, c'est Samuel, un jeune geek prépubère comme tant d'autres qui a dû être traîné là par l'école ou par sa famille. Et Samuel se dit la même chose que vous. On dirait un god géant. Eh ben non. C'est un portrait de femme. Sculpté par Constantin Brancusi. Tiens, c'est lui qu'on voit là, travaillant pensivement son marbre. Et c'est cette femme-là qui lui a passé commande, Marie Bonaparte, arrière-petite-nièce de Napoléon, qui possède la moitié de Monaco et vient d'épouser, c'est ce gars-là sur le pendentif, prince Georges de Grèce et du Danemark. Oula ! Le voilà en train de travailler laborieusement madame, à leur nuit de noces. Ben, il s'en excuse, hein. Je déteste ça plus que vous, mais il faut le faire pour avoir des enfants. Ben oui, parce qu'il préférait les garçons, en fait.
Voilà pour cet extrait de Princess X. Vous vouliez en parler, Florian Guettet ?
Non, mais juste dire qu'effectivement, c'est l'œuvre qui illustre sans doute le mieux la façon qu'a cette génération quand même de répondre au crépuscule dont parlait Sally par l'humour. Mmh. C'est-à-dire que malgré tout, il y a quelque chose de très burlesque et ils traitent de sujets très sérieux. Effectivement, ils sont tous conscients de l'effondrement potentiel à venir ou pas. Et ils y répondent souvent avec une forme de légèreté. Ils sont pas dans une forme de pathos, de lourdeur. On voit ça effectivement chez Gabriel Abrantes, mais même chez Raffaella Vogel, qui fait une sorte de qui fait des sculptures en cuir tombante, assez grossière, assez simplifiée. Et puis on a une petite comptine derrière qui raconte en fait une sorte d'échec de la Révolution. Et tout ça en fait nous donne en fait le sentiment que l'installation en elle-même n'est pas là pour crier la désillusion face au désir de liberté, mais nous amadouer, nous domestiquer avec le désespoir peut-être à venir.
Ouais, Sally Bonne, un dernier mot.
Oui, un dernier mot, juste c'était parce que j'évoquais cette disparité et l'idée qu'il y avait des œuvres qui étaient particulièrement intéressantes et notamment réjouissantes. Effectivement, la vidéo de Gabriel
Arbantes
en fait partie, et aussi cette dernière salle qui est assez singulière parce que elle est traversée par du rite, du rituel, des questions d'animalité, des questions un peu chamaniques, et qui produit en fait un dialogue entre trois artistes qui est particulièrement intéressante, et c'est la dernière salle en fait de l'exposition et sans doute la plus réussie.
Bon, allez voir par vous-même, hein. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire, cette exposition Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses, c'est jusqu'au 16 juin à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, et puis bon, pour la performance qui n'est pas dans l'exposition, les rendez-vous bien sûr des soirées nomades, les nuits de l'incertitude, ça a commencé, ça se poursuivra jusqu'au 13 juin. À suivre dans cette dispute, Angelica Mesitti, La Lune et Anne Kreisels.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux arts plastiques avec l'exposition consacrée à Angelica Mesitti, exposition dans la commissaire et Daria de Beauvais, Palais de Tokyo qui nous offre une belle occasion de découvrir les imposantes installations vidéo de l'artiste née en 76, l'artiste australienne qui traque toujours, on va expliquer comment, les nouveaux modes de communication en dehors de la parole ou de l'écriture chez elle. On verra que le son, la musique, les corps sont autant d'émetteurs de sens. Premier tour de table pour résumer vos impressions sur cette exposition Mesitti, Florian Guettet.
Une proposition claire, simple, sensible, mais qui n'empêche pas des questionnements plus complexes.
Sally Bonne.
Une exposition qui est très, très prenante et très belle, que je dirais chorale et chorégraphique.
Annaëlle Pijat.
Avec le meilleur à la fin, dans un moment de cristallisation extrêmement réussi.
On va écouter Angelica Mesitti parler de son travail après un court extrait sonore d'une de ses vidéos.
I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling along.
So as you move through the show,
au fur et à mesure que vous vous déplacez dans mon exposition, la façon dont vous percevez mes œuvres et votre interaction avec elles vont beaucoup changer. Car je ne pense vraiment pas qu'il soit possible d'être un spectateur impartial. En fait, en filmant et en juxtaposant toutes ces relations que j'ai moi-même générées, j'ai exprimé une opinion.
Encore une super production de La Dispute avec une voix française, Joséphine Dumoulin. Florian Guettet, qu'est-ce qui caractérise pour vous le travail d'Angelica Mesitti?
Je trouve que son travail incarne le tournant vidéographique de la performance qu'on voit de plus en plus à l'œuvre dans les expositions. C'est-à-dire que l'enregistrement vidéo ne vient plus dans un après-coup pour venir enregistrer les traces ou témoigner d'une action, mais bien comme un moyen en amont pour l'organiser et la canaliser. On voit ça dès le début avec cette première installation quadrifrontale qui nous pose d'emblée dans un dispositif cinématographique, mais qui n'empêche pas que ce qu'on voit n'est pas forcément un scénario, mais bien une action in situ, qui n'est pas répétée, qui n'est pas rejouée. Et donc, il tient bien la performance. Deuxièmement, je trouve que ce travail parle de la musique comme d'un opérateur social, culturel, qui est capable évidemment d'adoucir les mœurs, on en est tous conscients, mais encore de faire lien, de partager des différences politiques, sociales, culturelles ou même générationnelles, des différences qui ne sont pas présentées comme des raisons d'un échec à faire groupe. Donc ça, c'est très clair dans la deuxième installation, Mozartung, qui est tournée dans un village danois où on voit en fait des pratiques communautaire, du chant communautaire ou de la musique communautaire. à travers des chorales scolaires, des danseurs palestiniens, des scouts, des circassiens, etc. Et puis sa troisième caractéristique, c'est peut-être de traiter du corps comme une sémiotique, enfin en tout cas, qui renvoierait à une sémiotique ouverte et plurielle, c'est-à-dire dans sa capacité à faire signe et à produire du langage en deçà de la communication verbale. Et ça inclut tout ça une infinité de variations. Et on le voit, elle fait parler même les silences, elle fait parler les gestes, elle fait parler, alors ça c'est vraiment propre à la troisième installation qu'on présente qui s'appelle The Color of Saying, mais même aussi à la quatrième Relay League, où une même partition va être interprétée en langue des signes, en clapping, elle va être mimée avec les bras, danser avec tout le corps ou jouer avec un instrument, ici une percussion. Et puis bien sûr, il y a un travail de mise en espace dont elle vient de parler, tout à fait intelligent, qui va forcer tout le temps le public à la mobilité.
Alors justement, Sally Bone, quelle place pour le spectateur, hein, parce qu'on a entendu dans ce court extrait de l'entretien d'Angelica Mesiti, la façon dont vous percevrez mes œuvres et votre interaction avec elles vont beaucoup changer dans ce parcours.
Oui, il y a un vrai parcours qui déplace littéralement le spectateur, physiquement, mais aussi dans ses codes, et qui fait preuve dans l'ensemble d'une singulière attention au monde. On entre dans l'exposition par... il y a quatre grandes salles, en fait, et un couloir de sortie, et chaque salle il y a une installation spécifique qui suppose aussi un certain type de déplacement ou en tout cas un certain mode d'occupation de l'espace. Ce sont chaque fois des dispositifs scénographiques architecturaux qui posent la question du point de vue qui n'est jamais central en fait. Et jamais unique non plus. Donc à l'image de la dernière vidéo où on voit des déménageurs qui portent un piano à queue dans un escalier en bois en colimaçon, et il y a cette présence très forte du corps qui est mis à l'épreuve, mais du corps qui aussi entraîne le mouvement et le son. Et donc en tant que spectateur, on est constamment aussi entraîné, à la fois parce que la musique est très présente, comme l'a évoqué Florian, et on a entendu le petit morceau qu'on a entendu là. En fait, il y a cette magnifique vidéo qui est le début de la première installation dans la première salle, qui c'est une femme qui joue, ça s'appelle de la koutouk, qui est en fait de la percussion dans l'eau, qui est absolument extraordinaire. Et en fait, dans cette première salle, il y a quatre écrans qui seraient sur quatre murs en fait, et on se trouve sur une estrade, et les quatre écrans en fait, se succèdent, et on est au centre, et on se déplace en fait pour pouvoir se trouver face à chaque vidéo. Et en fait dans tout le parcours, on est invité en fait à faire l'expérience des vidéos de manière différente. Dans la troisième salle notamment, qui est une salle très très blanche, les trois écrans sont disposés en oblique comme ça dans l'espace, et en fait, il y a une sorte de signal sonore qui nous invite à nous déplacer. Par exemple, la première vidéo est une vidéo quasi silencieuse ou presque silencieuse, puisque c'est une chorale qui chante en langue des signes. Donc, elle est quasi silencieuse, mais on est invité à se déplacer sur des estrades qui sont d'ailleurs elles-mêmes en fait le décor des performeurs. Donc on a l'impression d'être à la fois avec eux, puisque la salle est très blanche et puis que les écrans sont blancs tant qu'ils sont pas mis en œuvre, et en même temps on se déplace aussi avec eux dans le mouvement de leur son. Et puis on finit par cette très belle, très grande salle avec trois écrans, et là il y a un parcours qui est fait de parois semi-opaques, donc qui laisse deviner ce qui se passe dans les écrans, et qui en fait c'est un petit peu labyrinthique, c'est-à-dire qu'on tourne autour des espaces, on se déplace dans chaque écran pour finir avec le troisième en comprenant que finalement on est dans le même espace, c'est-à-dire qu'en fait les trois écrans se correspondent, et que les trois performances qui ont lieu sur chaque écran finalement n'en forment qu'une seule, mais elles sont éclatées dans l'espace, et c'est bien à la fois le regard et le corps du spectateur qui va fabriquer en fait cette entité ou cette communauté, puisqu'il est évidemment beaucoup question de la communauté, notamment par le geste, par le son et par le chant.
Alors je trouve que c'est effectivement notamment cette exposition a une dimension que je trouve juste, à la mesure où on l'a compris après vos propos, il y a peu d'œuvres présentées, même si elles ont besoin d'espace, mais moi je crois que j'aurais... Et voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que moi j'aurais pas aimé que ça se poursuive trop, parce qu'à chaque fois il faut quand même consacrer un certain temps à chacune de ces installations, parce que ça marche aussi dans la durée, forcément, mais ça m'a pas semblé réducteur pour autant. Anaël Pigeat, votre sentiment?
Non, absolument pas, mais d'autant plus que dans ce parcours chorégraphique, enfin, dans lequel le visiteur est invité à participer d'une certaine manière à une sorte de chorégraphie, il y a une progression qui est assez bien construite, c'est-à-dire que ça commence très doucement, puisqu'on se trouve dans la premières pièces successivement dans un dispositif assez classique, c'est-à-dire face à un écran, puis les écrans se multiplient, puis les écrans s'étalent dans l'espace, puis à la fin, et c'est pour ça que je parlais de cristallisation dans la dernière salle, on a l'impression que toutes les recherches menées, formelles, menées par Angelica Messiti, se rassemblent dans cette vidéo qui, pour en dire quelques mots du contenu, s'inspire de la disparition du Morse. Et elle part d'un message envoyé par un navire français.
On ne parlait pas de l'animal, mais du système de codage.
Absolument, du système de codage. Et du dernier navire français qui a envoyé le message suivant. « Ceci est notre dernier cri avant notre silence éternel. » qui est traduit dans un premier temps par le batteur, le musicien-compositeur Uriel Barthélémy en musique. Puis on voit des danseurs en train, un couple de danseurs dont un est visiblement déficient visuel, qui font des gestes qu'on ne comprend pas bien, et on voit devant le troisième écran qu'en fait la femme était en train d'expliquer à l'homme, donc ces deux danseurs dont je viens de parler, les mouvements d'interprétation de la musique d'un troisième personnage, d'un quatrième en l'occurrence, qui est en train de danser sur la musique d'Uriel Barthélémy. Et au fond, on a l'impression que oui, se rassemblent là toutes les recherches, toutes les graines semées dans les vidéos précédentes. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis trouvée, en sortant de l'exposition, en train de circuler dans le palais de Tokyo et en train de me dire que tout était chorégraphique. Et je trouve que cette manière dont elle affûte, finalement, notre regard sur le monde est une chose, à travers ses œuvres, est une chose tout à fait réussie.
Pour autant, est-ce qu'il vous a semblé que ses œuvres avaient toutes le même intérêt, ou est-ce que, justement, il y a ce parcours progressif
Moi, je trouve qu'elles ont tout leur intérêt, mais à des endroits différents, effectivement. Sur la deuxième installation qui présente les chants communautaires, on voit la communauté, on est spectateur de la communauté, mais autant dans la première installation, donc en quadriphasé avec un carré sur lequel on vient s'asseoir au milieu, je trouve que la communauté c'est nous, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui sont isolés, qui sont d'ailleurs souvent isolés dans leur vie sociale et politique, puisqu'ils sont déplacés, ils viennent du Cameroun, ils viennent du Soudan, ils viennent de l'Algérie, et ils se retrouvent dans la rue, dans le métro, ou dans une piscine, ou dans une voiture à interpréter leur musique du pays d'où ils viennent, quoi. Et en fait, quand on peut pas toujours se déplacer en fait pour regarder l'une après l'autre
oui.
les écrans. Moi, quand je suis arrivé, il y avait quand même pas mal de monde, et du coup, en fait, je me suis retrouvé à la fois gêné par les autres et puis à un moment gêneur pour ceux derrière. Et du coup, ça nous met comme ça dans une forme de proximité avec les autres visiteurs qui nous fait nous interroger nous-mêmes sur notre propre corps et comment on vient le positionner et comment on vient se rendre discret ou au contraire combien on vient égoïstement profiter du film. Donc non, je trouve que ça agit, de toute façon elles agissent toutes et elles agissent effectivement à des endroits différents.
Annel Pijat.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments je trouve quand même plus intenses dans l'exposition que d'autres. Il faut dire aussi que ce travail chorégraphique avec les visiteurs, elle n'est pas la première à l'avoir menée, et que d'autres avant elle se sont essayés à cela. On peut penser en particulier à Henri Salat dans la grande exposition qu'il avait faite au Centre Pompidou. On peut penser d'une certaine manière à Philippe Parrainot ou à des artistes comme Isaac Julian aussi, qui travaillent comme ça les mouvements du spectateur. Et je trouve que dans l'exposition d'Angelica Messiti, il y a deux moments qui sont les plus forts en la matière, qui est The Color of Saying, dans lequel on se trouve dans le décor que l'on regarde dans les vidéos et où on se trouve grimpé sur des socles ou sur des bancs sur lesquels les performeurs qu'on voit à l'écran sont eux-mêmes installés. Donc il y a une sorte d'effet de miroir comme ça ou d'écho qui est assez réussi. Et puis la fin dont je parlais tout à l'heure, où il me semble qu'elle invente quelque chose alors que peut-être dans d'autres moments il y a plus des effets d'utilisation de dispositifs déjà utilisés par d'autres.
Florian Guettet, puis Sally, ensuite.
Oui, effectivement, il n'y a pas une originalité.
Ce qui n'est pas un crime en soi, voilà,
ouais,
mais
exactement,
c'est
absolument.
Je trouve qu'il y a une esthétique
Il y a une esthétique qui est en train de se former. Moi, j'ai beaucoup pensé à Camille Aubé, dont on a parlé
Évidemment.
J'ai pensé à Mélanie Manchot, qu'on a vu au Macval il y a peu. J'ai pensé à Cécile Le Tallet, qui a travaillé aussi sur le sifflement. Je pense à Xavier Leroy sur le corps instrumental. Enfin, d'une façon générale, j'étais content de voir abandonner la critique du corps instrumentalisé au profit d'un éloge du corps instrumental. Moyen d'émancipation, moyen de langage, moyen de de faire lien avec les autres. Un corps, parce que le corps, c'est finalement l'irréductible que l'on a tous en partage et qui fait que tout le monde peut activer, amateur comme professionnel, ces installations ou ces projets. Et puis le corps parle de toute façon de lui-même, par-delà les conventions, par-delà toute forme de normes. Et ça, je trouve que ça, c'est réussi.
Salut, bonne.
Alors, si le corps est très présent, effectivement, cette scénographie qui est à l'écran, elle entraîne d'une certaine manière une scénographie en mineur de la part du visiteur, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de l'ensemble des vidéos et des différentes salles. C'est un contraste très saisissant qu'on retrouve toujours, puisqu'il s'agit quand même effectivement d'un travail sur des chants vernaculaires, des traditions orales ou gestuelles qui sont rejouées en fait dans des espaces qui leur correspondent pas. Et donc ce contraste entre par exemple ce c'est très très beau d'ailleurs ce siffleur qui siffle un chant sacré, enfin un chant soufi du Soudan dans son taxi à Brisbane. Quand il se met à siffler, en fait c'est l'étendue s'ouvre et on a un paysage qui vient s'opposer au défilement des voitures. Et en fait, tout se joue là, dans l'ensemble des vidéos, sur ce travail entre l'architecture moderne, la manière dont on vit ensemble aujourd'hui, et comment, dans ces espaces-là, c'est-à-dire que ça interroge aussi notre manière d'habiter et notre manière de faire venir, en fait, du fond de l'histoire, des chants et des histoires.
Annaëlle Piégeat.
Une des vertus de ce travail, c'est de n'être pas appuyé, de donner les choses à sentir plus que de les expliciter.
Il faut dire à nos auditeurs, auditrices, il faut y aller très librement.
Exactement,
et
que ce soit dans le rapport au corps, à la musique.
Le temps. Voilà. Mais il n'y a pas forcément de mode d'emploi.
Il y a une attention aussi de sa part au visage, au grain de la peau, au tatouage, au geste infime. Et c'est très très beau. Vraiment, il y a une attention particulière qu'elle a pour les autres. Et on est emmené en fait
dans ce... Il y a une expérience sensible qui peut normalement nous conduire à toutes sortes de réflexions.
Et qui n'est jamais didactique.
Et puis une sensibilité, pas forcément là où on l'attend. C'est pas la musique qu'on écoute avec les yeux, voir ce que l'on entend, etc. C'est des réagencements qui sont hyper importants.
Ouais, vous allez reparler tout de suite après, Florian Guettet. C'est pour ça que je ne vous laisse pas continuer, car votre coup de cœur arrive. Le temps de dire que cette exposition Angelica Mezzetti, Qu'en faire, c'est dire, c'est son titre, est visible jusqu'au 12 mai au Palais de Tokyo. Il y a un petit catalogue qui est édité également pour l'occasion par le Palais. Et puis... pour celles et ceux qui en auront la chance, enfin ça va quand même durer 6 mois, elle sera l'occupante du pavillon australien à la prochaine Biennale de Venise. On aura l'occasion d'en reparler ici. Oui, c'est à nouveau à vous, Florian Guettet. Vous voyez, ça n'aura pas duré trop longtemps, cette cure de silence que je vous ai imposée. Vous allez nous parler d'un livre, un livre d'Anne Cressels, Le geste emprunté, aux éditions du Félin. Et comme par hasard, de quoi parle-t-il, ce livre ?
Eh bien, de gestes. En fait, de gestes, mais c'est pas si simple à comprendre, en fait, ce titre-là, du geste emprunté. En fait, il s'agit de montrer que des actions, des gestes, les postures qui sont activées dans le champ de l'art, donc que ce soit en performance, en vidéo, en installation, ou même dans les conférences d'artistes, manifestent une forme d'altérité à soi. Qu'il s'agisse donc d'assignation identitaire, de contraintes qui sont imposées à l'extérieur, d'incorporation de normes identitaires, ou même tout simplement de la reprise de gestes qui ont été dans des œuvres activées, dans les œuvres du passé. C'est autant de preuves qu'il y a bien de l'autre qui travaille en soi. Alors, dans cet essai, elle interroge la capacité du corps, finalement, à renverser ses rapports, qui relève toujours d'une forme d'autorité, pour faire du corps objet un corps sujet. Pour traiter la question, elle va convoquer l'historien de l'art Abby Warburg, mais aussi l'anthropologue Marcel Mauss, dans une perspective qui justement s'appelle une anthropologie des images, ce qui pourrait être original pour penser comment ces images habitent les corps. Elle reprend ses anciens travaux, enfin les travaux en cours plutôt, sur les mythes multiséculaires et la façon dont ils affectent en profondeur les corps, et particulièrement le corps des femmes. Par exemple, comment le mythe de la grâce vient réifier le corps des femmes, ou celui de l'exotisme vient réduire les femmes à des clichés racistes. Pour illustrer ces hypothèses, ou plutôt des questions, parce qu'elle pose plus de questions qu'elle n'affirme les choses, elle convoque une sélection d'artistes, comment je trouve profondément intéressantes, que ce soit Isadora Duncan, Anna Pavlova, Joséphine Baker, Rebecca Horn, Nikita Saint-Phal, Larry Bott, Esther Ferrer, Claudia Triodi, qui ont toutes finalement
beau
en commun.
Choix.
Ouais, je trouve. Qui ont tout en commun d'avoir créé une sorte de dispositif de réappropriation du corps pour retourner le mythe contre lui-même. Mmh. Qu'il s'agisse d'affirmer une singularité, de redéfinir la différence sexuelle, de prendre en main son propre récit critique ou historique, ou d'incarner une présence plutôt qu'un signe. Moi, je trouve que c'est toujours un plaisir pour moi de lire Anne Cressel, qui a une pensée qui est vraiment à son image, à la fois vive et douce, humble et scrupuleuse. Elle est professeure d'université, elle est performeuse, elle est spécialiste de performance, et engagée dans une relecture féministe de l'histoire de l'art. Et je trouve que c'est chez elle une façon, en tout cas avec cet essai, d'éviter ou de balayer tous les poncifs sur le corps, c'est-à-dire le corps prétendument neutre, l'idée que l'art c'est forcément de l'émancipation. Donc je trouve qu'elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et ce geste-là, bah, il lui appartient, il n'appartient vraiment, elle ne l'emprunte pour le coup à personne d'autre.
Le geste emprunté, c'est le titre de ce livre d'Anne Cressel, publié donc aux éditions du Félin.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
La dernière exposition à notre programme ce soir, La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire, à voir au Grand, pour le coup, Palais, jusqu'au 22 juillet. Alexia Fabre et Philippe Malguir en sont les commissaires. Évidemment, l'exposition précède le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Le Grand Palais propose donc une exposition qui s'intéresse aussi bien à l'exploration scientifique qu'à la création artistique.
Ok, I just checked. Getting back up to that first step. It's not even collapsed too far, but it's adequate to get back up.
Roger, we copy.
That's a pretty good little jump. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Allez, vos premiers pas dans cette dispute sur la Lune, avec vos premières impressions résumées ici, Sally Bonne.
Une exposition qui veut tout embrasser.
Anaëlle Pijat.
Une tentation encyclopédique, presque typologique, mais bizarrement pas très lunatique.
Florian Guettet.
On nous promettait la Lune, j'ai l'impression d'avoir vu une éclipse des commissaires.
Bon, alors est-ce que qui trop embrasse mal étreint, donc Sally Bonne, je ne sais pas si c'est ça votre idée, mais nous dire quand même aussi, pour donner quelques clés encore, comment est conçu le parcours de l'exposition.
Alors, comme l'indique le sous-titre de l'exposition, du voyage réel au voyage imaginaire, donc le parcours part du voyage réel, c'est-à-dire Apollo 11 et le voyage, les premiers pas sur la Lune, pour aller justement vers une multitude de voyages imaginaires, ce qui évite peut-être un parcours chronologique et qui favorise aussi l'éclatement du sujet, ce qui est à la fois positif et pas forcément. Donc il y a 5 parties en tout, toutes les salles sont peintes en bleu, donc quand on entre... On va voir la Lune et on rentre dans la nuit. Et dans toutes les salles sont mêlés des documents d'archives, des œuvres artistiques qui sont anciennes et contemporaines, donc du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à des œuvres très contemporaines, dont même certaines faites pour l'exposition. Donc la première partie de La Lune à la Terre, du voyage réel au voyage imaginaire, on part de la réalité pour revenir au mythe, à la fiction et à l'imagination. L'exposition commence donc par le voyage Apollo 11, des documents d'archives, des photos prises par les astronautes eux-mêmes, c'est-à-dire Aldrin et Armstrong, qui sont absolument magnifiques. Avec des levées de terre qui sont quand même très très singuliers, c'est très beau à voir. Des échantillons de sol lunaire, des couvertures de journaux, des objets, des gants d'entraînement, des objets et des images réelles qui côtoient des objets artistiques, donc la capsule en bois de Stéphane Tidet, une fusée rose pailletée de Sylvie Fleury, des aventures de Tintin, des livres anciens, Cyrano de Bergerac, Lucien de Samosat, des films, Jules Verne, Méliès, on a même les Shadocks, c'est toujours agréable à voir, ou William Kentridge. Tout n'est pas forcément heureux, d'ailleurs, dans ce choix-là, notamment ce deuxième pas proposé par Misser Cantor en béton au milieu de la salle qui...
On ne va pas encore dire du mal de Mircea Cantor ici. Je crois qu'on en a déjà fait notre lot.
Ce jeu,
on va croire que c'est personnel.
ce jeu entre la réalité du voyage et sa reproduction est un petit peu pas évident. Deuxième partie, la lune observée, donc des instruments d'observation, des tentatives de représentation, des cartographies, il y a des choses absolument magnifiques. La reproduction de la lunette de Galilée, un magnifique dessin à la plume de Thomas Harriot qui date de 1609, qui est vraiment une merveille, une installation de globe lumineux d'Angelo Chia, une très très belle série de James Turrell, des photographies de la surface lunaire, etc. On a une troisième partie, les trois visages de la lune, puis la lune est une personne, et la dernière partie, une expérience partagée de la beauté. Et dans ces trois dernières parties, on passe avec des œuvres, justement des marbres du 1er siècle, jusqu'à une grosse partie dans la dernière consacrée à des œuvres romantiques, évidemment, puisque on contemple la lune, on réfléchit à la lune, on est lunatique, on est changeant aussi, puisque la lune est changeante, on est aussi d'humeur noire, puisque la lune est noire, etc., etc.
Ben voilà, un beau parcours au pas de charge, mais très bien résumé par vous, Sally Bones, ce qui nous permet de prendre plus de temps tous ensemble pour quand même s'intéresser, on va dire, au versant le plus artistique de cette exposition et les choix d'œuvres en conséquence, même si je suis d'accord avec vous, tout ce qui est de l'ordre du document, enfin lié à la mission Apollo, entre autres, et ou les cartographies qui sont à la frontière, on va dire, entre le document et là, sont vraiment de très belles pièces, souvent, et assez émouvantes. Anaëlle Pigeat, concernant vraiment, on va dire, les œuvres d'art, pour les appeler ainsi.
Mais il y a effectivement de très beaux moments dans cette exposition. Le problème, c'est que, comme le disait Sally en commençant, l'exposition veut embrasser très largement, à la fois des documents quasiment scientifiques à la création contemporaine, et que finalement, on arrive...
Mais elle n'est pas si grande, l'exposition.
Non, absolument, elle n'est pas
c'est
si grande.
C'est ça aussi qu'il faut dire.
Et on arrive donc à une sorte d'effet catalogue, mais un peu heurté, et dont l'écueil, je trouve, est un traitement iconographique du sujet. C'est-à-dire que... Et ce qui est bizarre, c'est que dans le choix des œuvres, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, Arnaud, finalement, ces choix, je les trouve un petit peu étonnants. Dans le sens où, pour ce qui concerne la partie contemporaine avec laquelle on commence, finalement, bon, là, ce sont, disons, un choix subjectif de grandes voix de la scène actuelle. Magnifique réarrangement d'un ancien arrangement d'Angelo Chia dont parlait Sally, les pièces d'Évariste Trichet qui dialoguent avec les instruments scientifiques et les lunettes absolument magnifiques, la capsule de Stéphane Tidet. Je ne vais pas recommencer l'énumération, mais disons que ça, ce choix-là est assez réussi, me semble-t-il. Ensuite, alors évidemment, il y a quand même quelques moments un peu curieux, par exemple, à la fin du parcours, dans la partie contemporaine, une sorte de cube lumineux de Martin Honnert, qui s'appelle La Lanterne, où on voit quelqu'un dans un lit dont on suppose que c'est un lit d'hôpital. Et là, j'avoue, je me suis un peu interrogée sur la présence de cette œuvre. Ouais. Et à cet endroit-là dans le parcours.
C'est l'homme
et
de la lune, peut-être.
Tout court dans l'exposition, il regarde la lune par la fenêtre.
Non, voilà. C'est dedans, c'est... Et dedans
oui,
et dehors.
Oui, c'est un peu curieux, oui. Indéniablement, mais en tout cas, bon, il y a quelques moments que j'ai trouvé un peu
curieux,
d'égarement.
On va dire, oui.
Disons. Ensuite, il y a la partie curiosa, disons, enfin en tout cas la partie qui concerne l'Antiquité, mais pas seulement, où là, je trouve qu'il y a vraiment un effet d'échantillonnage de petites œuvres, dont certaines sont très belles,
mais c'est très
pas
beau,
la question.
C'est Dieu-Lune,
oui,
ou c'est déesse de la Lune,
mais absolument, c'est
présentée
très, beau,
très simplement, comme une sorte de
fresque. Qui sont dans
de
des,
fresque,
petites, niches,
oui,
en
des
gros,
petites niches,
en quelque sorte. Il y a aussi un tableau péruvien très étonnant, une sorte de vierge avec un manteau étoilé qui est à cet endroit-là. Mais on a l'impression un peu d'une sorte d'accumulation comme ça dont on comprend pas très bien les ressorts.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a de la
et
lune.
Et puis, il y a de la lune.
C'est, ça,
mais
voilà.
C'est le traitement iconographique. Et puis ensuite,
complètement.
Il y a toute la partie peinture qui en gros va du 17e au 19e, qui est mêlé à un certain nombre d'objets, d'horloges, de calendriers, un peu de sculptures. Et alors là, c'est aussi assez étrange parce que il y a des figures archi connues. Donc il y a un petit tableau de Philippe de Champaigne, il y a le Endymion de Girodet, on retrouve Dali, on retrouve Manet, on retrouve Boudin. Bon, Boudin, il y a des Boudins que je trouve meilleurs que celui-ci, mais il y a
ils n'avaient pas de lune, les autres, c'est
pour ça. Il y a aussi des figures plus rares qu'on est content de revoir. Par exemple, Semiha Berskoy, qui est une artiste turque du début du XXe siècle, qui montre un couple sous la lune absolument magnifique. Il y a une œuvre de Tutunjian, qu'on voit aussi, une figure assez rare, que moi j'étais très contente de voir. Il y a un tableau de Paul Nash, il y a un tableau de Arkip Quinji, qui était membre des Ambulants. Et puis, il y a aussi une partie de catalogue de Claire de Lune du XIXe, dont le choix est complètement pléthorique. Et à
oui, parce que, comme dirait notre ami Corinne Mondeau, il y a de la Croutasse, et puis il y a des choses très belles.
Bon, moi, je ne m'aventurerai pas dans ce genre de...
Non, mais je me suis réfugié derrière Corinne, c'est très mal, donc je le dis moi-même.
Il y a de la Croutasse. Il y a en tout cas beaucoup de clair de lune.
Florian Guettet.
Oui, bah c'est vrai que moi je trouvais ça un peu feignant au niveau du parti pris curatorial. Effectivement, c'est très illustratif, très iconographique. Dès qu'il y a une lune, bah ça suffit pour faire discours. Et puis les cartels sont pas très intéressants, hein. Ils sont pas très fournis non plus. Je trouvais que sur le parcours aussi, bah la Princesse a un côté très Villette, la Cité des Sciences, avec voilà par exemple ces couvertures de Tintin que tout le monde connaît mille fois, mais qui sont là mises sous vitrine. Je vois pas du tout ce que ça vient apporter. Une affiche aurait fait l'affaire, tout à fait.
Je préfère la fusée de Sylvie Fleury, en effet, dans le même espace. Oui, c'est elle qui attire le regard.
Oui, tout à fait. Et puis ensuite, il y a cette volonté de mélanger le classique et le contemporain pour montrer une sorte de transhistoricité. Mais alors là, on arrive à la deuxième salle et en fait, on commence par du classique. Au milieu, on a du contemporain et on finit par du classique, comme s'il y avait une sorte d'embrassement, de chiasme, mais que ça ne se rencontrait pas. Il y a une sorte de rendez-vous manqué, moi, je trouve, entre le contemporain et des choses plus classiques. Et puis, je trouve que le principe, élément peut-être plus théorique qui m'a sauté aux yeux, c'est un principe assez simple d'inversion, c'est-à-dire dire voilà, la lune c'est l'inversion de la vie du jour, donc on a le char lunaire plutôt que le char d'Apollon, on a les trois visages des quatre qui représentent finalement une sorte de pendant des trois grâces, on a une jeune martyre qui ressemble à une Ophélie, on a la lune qui devient Laura de Sainte-Geneviève,
c'est Paul de la Roche,
chez Girodet on a carrément la lune comme un soleil, comme ça au moins c'est l'horloge elle est lunaire, la lune comme c'est le mauvais côté des femmes évidemment, l'inconstance, la sorcellerie, la séduction, la jalousie, la cabale. La nuit, c'est le moment d'indolence forcément. Donc j'ai trouvé quand même ça renforçait pas mal de poncifs sur la vie nocturne, d'ailleurs plus que sur la lune, mais plutôt sur la vie nocturne. On a très peu de choses sur les marées, par exemple. On a quelque chose par contre sur les mers lunaires. Effectivement, c'est plus intéressant sa partie scientifique parce qu'il y a ce grand livre du Siderius Nuntius de Galilée. Avec des dessins d'après Cassini qui sont absolument fascinants. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les taches lunaires sont des océans. Donc c'est assez prenant. Moi, dans mes plus, il y a quand même les deux tableaux à la fin de Hans Hartung et de sa femme, Anna Eva Bergman, avec une sorte de lune d'argent. C'était très heureux de les voir comme ça isolés, comme une sorte de couple lunaire. Et puis Private Moon de Leonid Tichkov.
Prenez votre élan.
C'est un peu difficile. Une lune artificielle, un objet lumineux qu'il va mener tantôt sur des espaces en friche naturelle, tantôt sur une barque. Sauf que la lune en elle-même, l'objet est représenté, mais alors il est rejeté dans un coin.
Il y a des lunes qui sont à peine visibles.
À côté du Suite Secours, pratiquement. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu malheureux pour l'artiste, mais même pour l'exposition dans son intégralité.
Il y a aussi dans la partie... Lampe, c'est cette lune avec interrupteur de Man Ray qui m'a beaucoup plu.
Oui.
Qui est pour une couverture de.
Du Monde en 1931.
Voilà, du Monde. Il y a cet artiste, alors moi je ne connaissais pas, donc j'ai oublié de regarder en fait, je retrouve les photos que j'avais prises là-bas. C'était Ronita Arleff. Est-ce que vous avez. Je vous montre la photo, hein. Oui. Vous le connaissez ou pas, Ronita Arleff? Moi j'ai beaucoup aimé ce tableau. Alors je ne savais même pas de quelle année ça datait, c'est 1964. Alors je ne sais pas si c'est la date du tableau. Je crois, ou c'est. Non, c'est la date de naissance de Ronita Arleff. Mais je me suis dit, mais comment se fait-il que ce tableau soit arrivé là? Alors, il y a une lune. Bon, enfin, franchement, elle est quand même très très loin au fond. Bon, est-ce que c'est un artiste qu'on verra bientôt au Macval et que du coup, Alexia Fabre s'est dit, tiens, il y a une lune, je vais le mettre là. Quand vous parliez des cartels qui sont vraiment très très peu renseignants pour le visiteur, là, ça en fait partie. Il y a des artistes. Voilà, comme Ronita Arleff qui m'ont attiré, intrigué, sans que j'en sache beaucoup plus. On n'a pas décrit non plus par contre, vous l'avez évoqué, en gelée de chat, il faut quand même donner quelques images. On a là des petites lunes éclairées de l'intérieur, mais qui sont disposées au sol. Il y en a, je sais pas, une douzaine, une quinzaine.
Des lunes qui sont justement brillantes, alors que la lune ne l'est pas.
Voilà, des lunes qui sont brillantes.
Tout est là.
Oui, effectivement, la lune n'est pas brillante.
C'est un astre mort qui reçoit la lumière.
Réagit à la lumière du soleil. Florian Guettet, vous voulez ajouter quelque chose si vous me faisiez signe?
Non, pas là-dessus.
Ah bon, très bien, Annette Pigeon alors.
L'œuvre d'Angele Tchat qui dialogue avec un ensemble d'œuvres d'Évariste Richer, dont une autre cartographie de la Lune faite au carbone, qui est une sorte de dédoublement comme ça, qui est comme un reflet, qui est extrêmement belle. Mais c'est vrai qu'il y a des curiosités. Alors, il y a des moments heureux de l'exposition. Par exemple, un très étrange tableau de Marcel Dinet, qui est aussi un peintre du 19e, où on voit un groupe d'hommes entre train de montrer on ne sait pas quoi du doigt. Marcel Dinet, qui est un peintre qui s'est converti à l'islam au moment où il a été au Maroc, en Algérie d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Et en tout cas, qui montre du doigt une éclipse de lune, une vidéo d'Anne-Véronica Janssen. Et qui, comme ça, qui demande, mais en fait, on aurait aimé qu'il y ait plus de moments comme ça dans l'exposition, comme le moment dont vous parliez, Florent, entre Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, une œuvre de toute jeunesse d'ailleurs de Hans Hartung, ce qui est tout à fait intéressant.
Non, simplement prévenir, c'est vrai que quand on voit cette expo, enfin ces affiches, la lune, on se dit on va faire un énorme voyage. C'était un petit voyage qui a beaucoup de qualités, petits trésors, mais bon, dont on sent quand même un peu déçus tous quand même.
Oui.
Même avec certains plaisirs. Sally Bonne.
Oui, juste non, c'était parce que c'est une expo qui a quand même cette ambition à la fois de traiter mythologiquement, astronomiquement, astrologiquement, scientifiquement, poétiquement et artistiquement la question de la lune, mais au fond, entre science et poésie, en fait, au bout du compte, elle ne fait pas tellement rêver.
Et Florian Guettet, pour finir.
Oui, effectivement. Et puis, en fait, la somme des incohérences fait qu'on se détache un petit peu du sujet. Même le Cadaratia, qui est une sorte de mobile, comme ça, spectaculaire, mais en fait, qui est une sorte d'éloge œcuménisme, et qui voilà, certainement pas sa plus réussie. La plus réussie. Ou alors, moi, j'ai beaucoup aimé le Paul Alexandre Proté, qui est un champ de bataille, mais c'est vrai que j'ai du mal à.
Ah, le champ de bataille est très beau.
C'est très beau.
Magnifique clair de lune.
On a l'impression parce qu'il est là.
C'est Waterloo.
Par prétexte. Quoi.
Ah, c'est ça.
Oui, c'est Waterloo. C'est Waterloo.
Bon, il y a des choses à voir, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on attendait en entrant dans l'exposition. Allez voir par vous-même la lune, du voyage réel au voyage imaginaire, jusqu'au 22 juillet au Grand Palais. Et puis, pour l'occasion, il y a aussi évidemment l'édition d'un catalogue. Et voilà la voix française d'Angélica Mézitik qui m'a rejoint Joséphine Dumoulin, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, puisque oui, nous sommes dans la séquence du jeu de la dispute. Joséphine.
La question était quel est le premier métier exercé par le metteur en scène Frédéric Ferrer, et la réponse était géographe.
Ce soir, nous vous gagnez des invitations pour le film Ray et Liz de Richard Billingham, qui est sorti aujourd'hui dans les salles, dont nous parlerons vendredi dans la dispute. Quelle est la question, Joséphine ?
Dans lequel de ses courts-métrages documentaires, Richard Billingham met-il en scène l'addiction de son frère aux jeux vidéo ?
Votre réponse, j'ai failli souffler la réponse, ben, ça va pas moi. Ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son Yanis Joudan, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature. Nous serons avec Elisabeth Philippe, Philippe Chevillier et François Angelier. Nous parlerons de Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado, L'outsider de Stephen King, Les ombres sur la Tamise de Michael Antadje et un coup de cœur d'Elisabeth Philippe pour On dirait que je suis mort de Jean Béguin.